Il est 8h.
Je prenais un repas et je le vomissais dans l'heure qui suivait environ. Je suis descendue en dessous de 45 kilos.
Anorexie, boulimie, les troubles du comportement alimentaire en hausse de 30% chez les jeunes à cause du confinement. Dès le début du journal Dossier, pour comprendre ce phénomène qui passe trop souvent inaperçu. Perspective rassurante que nous pouvons vous offrir ce matin. D'ici au 29 juin, la moitié de la population française aura reçu au moins une dose de vaccin. Le PSG a rendez-vous avec son destin ce soir face à Manchester City. Les Parisiens peuvent mettre un pied en finale de la Ligue des Champions. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Beaucoup de questions à poser ce matin au professeur Alain Fischer sur les variants, l'élargissement de la vaccination sans critères d'âge. Mais pourquoi encore attendre? Pourquoi ne pas accélérer, fluidifier? Rendez-vous à 8h15 pour les réponses, on
l'espère. C'est juste après ce journal. À tout à l'heure Sonia. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. Il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de Simon Rubin. Bonjour Simon.
Bonjour et commençons ce journal avec un chiffre vertigineux qui raconte à lui seul la difficulté du confinement pour les jeunes. Un chiffre qui raconte l'isolement, la détresse, qui raconte jusqu'où on peut en arriver pour essayer de ne pas perdre pied. Ce chiffre, 30%. Les troubles des comportements alimentaires ont augmenté de 30% avec le confinement. On parle ici d'anorexie, de boulimie. Bonjour Johanna Chabas.
Bonjour.
C'est un phénomène qui touche surtout les femmes de moins de 30 ans.
Oui, c'est le cas de Marie, 19 ans, étudiante en première année de géographie. L'an dernier, lors du premier confinement, elle a perdu tous ses repères et ça a déclenché une boulimie.
Avant le confinement, j'avais en fait une routine, un emploi du temps. Je me levais le matin, j'allais au lycée, je mangeais à midi en ville avec des amis. Et donc le confinement, ça m'a empêché tout ça. Ça a laissé place à tout ce stress et cette anxiété qui m'atteignent parfois. Donc il y a une période pendant le confinement où je prenais un repas et je le vomissais dans l'heure qui suivait environ. Je suis descendue en dessous de 45 kilos. J'avais pris des photos de moi quand je les regarde, mais je ne me reconnais pas. Le fait de vomir me soulageait.
Marie, dont on entend le témoignage, Johanna Chabas, Marie est loin d'être un cas isolé. Depuis le début de la crise, les services spécialisés font face à un afflux de patients.
Oui, notamment à l'Institut Montsouris à Paris. Là-bas, les 30 lits sont occupés, une vingtaine de personnes sont en liste d'attente. Maurice Corcos, qui dirige le service, est obligé d'adapter la prise en charge des patients.
Nous assistons à des demandes de plus en plus nombreuses de patients qui sont beaucoup plus maigres, qui nécessiteraient des hospitalisations. Or, comme nous n'avons pas de place, nous les gérons en consultation avec nos collègues omnipraticiens, médecins généralistes. Ça tient, mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps.
Alors, cette augmentation des troubles alimentaires, elle s'explique, on l'a entendu, par un manque de repères, de relations sociales, mais aussi, selon le psychologue Valentin Flodias, par un sentiment d'impuissance face à la crise sanitaire.
Dans une période où on a peu de contrôle, l'alimentation, ça reste quelque chose qu'on peut contrôler, qui est rassurant. Et chez certaines personnes, l'alimentation permet de gérer le stress. Et donc, du coup, on peut potentiellement déclencher un trouble des conduites alimentaires.
Et selon lui, la fin de la crise n'apportera pas forcément un répit. Un déconfinement, c'est la reprise d'une vie sociale. Et donc, pour certains, le retour du regard des autres, source de peur et de stress.
Les troubles du comportement alimentaire, manger pour oublier, manger pour endiguer la souffrance du confinement, dossier signé Johanna Chabas, et on vous donne ce numéro d'aide, le fil santé jeune, ligne d'écoute anonyme, gratuite, pour être écoutée bien sûr, mais aussi orientée partout en France. C'est 7 jours sur 7, 8h minuit au 0800 835 836 0800 835 836.
Et c'est non sans un certain soulagement que l'on va vous donner maintenant une date qui, elle, va sans doute redonner un peu de courage. D'ici au 29 juin, la moitié des Français auront reçu une dose de vaccin.
Prévision qui est venue révéler sur notre antenne Stanislas Niox-Château, PDG de Doctolib, le site qui gère la quasi-totalité des réservations pour se faire vacciner.
D'ici le 29 juin, nos prévisions montrent que 50% des Français seront vaccinés avec une première dose. 20 millions de Français auront reçu cette première dose d'ici le 15 mai. Et la campagne de vaccination, elle poursuit son accélération. Aujourd'hui, on vaccine 450 000 patients par jour. C'est deux fois plus que début mars, quatre fois plus que début février. Et vous l'avez très bien dit, le facteur limitant, c'est la livraison de vaccins. Or, on a eu des bonnes nouvelles sur les dernières semaines. Donc, la campagne de vaccination poursuit son accélération avec une stratégie vaccinale qui est claire. vacciner d'abord les personnes les plus âgées. Aujourd'hui, plus de 70% des plus de 75 ans sont vaccinés, plus de 60% des plus de 60 ans. Et donc, ce sera la moitié des Français d'ici le 29 juin.
Stanislas Niox-Château, PDG de Doctolib, invité du 5-7 de Théo Manval. Et la France, qui est le 7e pays au monde en taux de personnes vaccinées. 14 millions de Français qui ont déjà reçu au moins une dose. Alors, pas de quoi se relâcher. La circulation du Covid reste très élevée en France. Raison pour laquelle il faut aérer les pièces. Alors oui, c'est un geste banal qui peut presque paraître ridicule et pourtant, Victor Delande, c'est efficace car de plus en plus d'études attestent que la transmission du Covid se fait essentiellement par aérosol, c'est ça ?
Alors en fait, le coronavirus se transmet essentiellement par voie aérienne. Lorsqu'on respire ou lorsqu'on parle, on émet des gouttelettes qu'on appelle des aérosols et les plus légères d'entre elles flottent dans l'air. Ces particules peuvent être porteuses du virus et stagner longtemps dans une pièce fermée. C'est la raison pour laquelle il faut renforcer l'aération des pièces, comme l'explique l'épidémiologiste Antoine Flau.
Investir aujourd'hui sur de l'aération, de la ventilation, c'est vraiment quelque chose qui, pour résoudre la crise du coronavirus, sera très très utile et qui, au-delà de cela, permettra d'enseigner, d'avoir des spectacles, d'avoir une vie sportive dans des locaux qui seront mieux ventilés, mieux aérés, avec un air plus pur. Et donc, de toute façon, c'est un bon investissement pour l'avenir.
Ces investissements passent d'abord par des capteurs CO2 qui permettent de voir si la pièce est suffisamment ventilée. Ces petits boîtiers d'une valeur de 50 euros ne vont pas indiquer la quantité d'aérosol avec du virus, mais ça permet déjà de rappeler à quel moment il faut aérer la pièce. Pour les épidémiologistes, toutes les écoles, les commerces et les salles fermées devraient obligatoirement en être équipées. Mais à part quelques expérimentations dans des établissements scolaires, on est encore très loin du compte.
Victor Delande, spécialiste santé d'Europe.
Et on va reparler du rythme de vaccination, mais aussi de la situation épidémique, des variants, des perspectives de déconfinement à 8h15. Le professeur Alain Fischer au micro de Sonia Mabrouk.
Les perspectives de déconfinement, il en a aussi été question hier au cours d'une réunion entre Emmanuel Macron et plusieurs maires de France. Un déconfinement par palier qui se préparait. Jean-Rémy Baudeau nous apprend également ce matin que le président a l'intention de repousser le couvre-feu 19h jusqu'à la mi-mai, puis plus tard pour l'été.
Renaud Muselier, président de la région Sud. La région Sud, c'est le nouveau nom de la région PACA. Il est candidat à sa propre succession pour les élections régionales de juin. Il l'a annoncé hier. Ce qu'il n'a pas dit, c'est avec qui il compte faire campagne. Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
Chef du service politique d'Europe 1. Mickaël, ce que vous nous révélez ce matin, c'est un tremblement de terre politique, on peut le dire. Renaud Muselier devrait faire liste commune avec des macronistes.
Oui, c'est même pratiquement bouclé ce matin. Renaud Muselier va effectivement intégrer sur sa liste des élus macronistes. C'est le résultat d'une longue négociation voulue par Emmanuel Macron, qui a souhaité que dans le Sud, il y ait un accord avec la droite dès le premier tour, afin de pouvoir repousser la menace du RN avec un Thierry Mariani, vous savez, qui est un enfant du pays et un ex-LR. C'est d'ailleurs également ce que les sondages montrent. En cas de liste commune, la liste Muselier majorité présidentielle arriverait devant le RN le soir du 20 juin. C'est encore Emmanuel Macron qui a cherché à envoyer des figures de son propre camp. Ça devait être Clément Beaune. Puis il a demandé à la secrétaire d'État Sophie Cluzel. À l'heure actuelle, elle négocie sa place et d'ailleurs, c'est plutôt incertain pour sa présence.
On devrait en savoir un peu plus aujourd'hui, Mickaël.
Oui, parce que la scénographie a été mise au point hier soir jusque très tard. Ce matin, Renaud Muselier doit s'exprimer et rappeler qu'il travaille avec le gouvernement main dans la main dans le cadre du plan de relance avec un objectif, sa région d'abord. Dans l'après-midi, il y aura une conférence de presse pour détailler l'accord politique entre des élus de droite et Emmanuel Macron, soutenu par ses barons du Sud, Estrosi, Falco, Martine Vassal. Et selon nos informations, cet accord sera entériné officiellement au plus haut niveau de l'État d'ici la fin de la semaine.
Donc là, Mickaël, une droite pro-Macron est en train de se constituer dans le Sud. On est à un an de la présidentielle. Est-ce que c'est une bonne opération pour le président ?
Alors c'est un des dossiers explosifs dans les coulisses de cette élection. Ça apparaît comme un bon coup politique et en même temps, pas tant que cela. Parce qu'il faut savoir qu'Emmanuel Macron voulait des accords de premier tour dans toutes les régions, sauf dans les Hauts-de-France et en Rhône-Alpes, pour s'implanter sur le territoire et atténuer l'effet d'un mauvais scrutin qui se profile. Mais c'est le parti présidentiel, l'AREM, qui s'y est opposé. On a raté le coche, confie un macroniste haut placé et qui rajoute, avec cet accord dans le Sud, c'est trop peu et peut-être trop tard.
Mickaël Darmon, chef du service politique d'Europe 1.
8h09, la suite du journal avec Simon Rubin. Aux États-Unis, il est déjà l'heure d'un premier bilan pour Joe Biden à la veille de ses 100 jours à la tête du pays.
Et cette annonce marquante du président américain, vous l'entendez ? À partir de maintenant, si vous êtes vacciné, si vous êtes à l'extérieur et pas dans la foule, eh bien vous pouvez arrêter de mettre le masque. La vaccination qui fait partie des bons points du mandat de Joe Biden, de ce début de mandat. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant et vous l'avez constaté auprès de New-Yorkais qui ne sont pas forcément des pro-Biden à la base, et bien que le nouveau président a la cote.
Depuis trois mois, le sentiment dominant à New York, c'est le soulagement. Rod est retraité et se considère de centre-droit. C'est certain, je le préfère à Donald Trump. C'est un président que l'on peut respecter, même si je suis de droite. D'une certaine manière, il a redoré la réputation des États-Unis. Et s'il y a une réussite de ce début de mandat qui revient dans la bouche des New-Yorkais, c'est bien entendu la vaccination. 215 millions de doses en 100 jours. Lori est une électrice indépendante. Elle salue le discours de Joe Biden sur la pandémie. Au moins, lui, on peut dire qu'il croit à l'existence du Covid, qu'il faut que les gens portent des masques et se fassent vacciner. Donc, c'est plutôt positif d'entendre ses propos venir d'en haut. Et puis, Joe Biden, il réussit même à étonner certains des démocrates les plus convaincus, comme Brian, qui sort de Central Park sur son vélo. Je ne pensais pas que le président serait autant progressiste. Je suis surpris positivement par la réforme des infrastructures, la politique sociale. Il ajoute plein d'espoir pour le futur. Joe Biden est doué pour rassurer, pour faire comprendre qu'il défend toute l'Amérique. Mais selon Aaron, démocrate également, Joe Biden n'incarne pas l'avenir. Même s'il va dans la bonne direction, vu son âge, il estime que le président ne fera qu'un seul mandat.
Alexis Guilleux depuis New York.
Le football, demi-finale de Ligue des Champions ce soir, PSG Manchester City. Évidemment, soirée spéciale sur Europe 1, de 20h à 23h30 autour de Lionel Rousseau et du service des sports d'Europe 1. Match à suivre en intégralité.
Pour assister à la victoire du PSG. En tout cas, ces derniers temps, les planètes semblent s'aligner pour les Parisiens. Julien Froment, on a des stars en forme, des joueurs moins en vue d'habitude qui se révèlent et puis une montée en puissance sur la scène européenne.
Oui, et ça se matérialise par l'extrême sérénité de l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino.
On est très relax et on a confiance en nos qualités.
Il faut dire que le Paris Saint-Germain a changé d'envergure. La finale de l'an passé à Lisbonne, les éliminations cette saison de Barcelone et du Bayern, deux mastodontes européens, ils sont forcément pour beaucoup. La superstar brésilienne Neymar, au club depuis 4 ans, ressent ce changement de statut.
Le club est plus respecté. Quand les gens parlent du PSG maintenant, ils savent qu'on fait partie des 4, 5, 6 meilleures équipes d'Europe. Paris a désormais obtenu plus de reconnaissance et c'est mérité. Notre équipe est très forte et c'est d'ailleurs la deuxième année de suite que nous sommes parmi les 4 meilleures équipes de la Ligue des Champions.
Alors le match de ce soir, ça reste un immense défi pour le Paris Saint-Germain car Manchester City est un adversaire redoutable, invaincu en Ligue des Champions, un entraîneur de génie à sa tête, Pep Guardiola, des joueurs talentueux à chaque ligne. Mais Paris a su jusque-là négocier avec brio tous les cols hors catégorie qui se sont dressés face à lui cette saison en Coupe d'Europe.
Julien Froment, et puis on rappelle hier la victoire, le match nul du Real de Zidane et Benzema, un partout. Le but était beau, mais match nul quand même contre le Chelsea de N'Golo Kanté.
Merci beaucoup Simon Rubin, c'était le journal de 8h sur Europe 1. Il est 8h13.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Il est pédiatre, professeur d'immunologie et président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Il conseille le gouvernement sur sa politique vaccinale. Alain Fischer au micro de Sonia Mabrouk dans une minute.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Ce matin, c'est le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, le professeur Alain Fischer.
Bienvenue à vous et bonjour professeur Alain Fischer.
Bonjour.
L'épidémie a tendance à régresser, a dit le ministre de la Santé Olivier Véran. Est-ce que c'est aussi votre avis ?
Oui, il y a des chiffres pour l'affirmer à travers l'analyse quotidienne du taux d'incidence de l'épidémie en France. Et ces chiffres sont en baisse, mais encore relativement élevés. Donc il faut poursuivre l'effort, c'est évident. Il faut poursuivre l'effort des différentes mesures, autour des différentes mesures qui ont été prises. Les plus anciennes, le port du masque, etc., mais aussi les plus récentes, les contraintes qu'il faut supporter parce que c'est notre intérêt à tous. C'est ainsi que nous arriverons à nous en sortir.
Vous n'êtes donc pas préoccupé, professeur Fischer, par le calendrier de réouverture progressive à partir de la mi-mai, compte tenu de ces données sanitaires de ce contexte aujourd'hui ?
Je pense que de toute façon, les choses seront regardées de façon très, très précise en temps et en heure. D'ici la mi-mai, il y a encore presque 3 semaines, si je compte bien, et donc d'évaluer la situation à ce moment-là. Et c'est sûr qu'il faut faire attention. Il faut naviguer, si je puis dire, entre des désirs et des contraintes et prendre la position raisonnable et prudente. Voilà.
Donc c'est important ce que vous dites, l'appel à la prudence, et naviguer aussi à travers les variants, notamment le variant indien, pour lequel l'inquiétude se cristallise. Qu'est-ce que l'on sait précisément de ce variant quant à sa résistance au vaccin actuel ?
On ne sait pas encore beaucoup de choses sur ce plan. Il a été découvert récemment. Il est, comme son nom l'indique, il a été isolé en Inde et il infecte beaucoup de personnes là-bas où malheureusement l'épidémie prend une tournure très négative, mais pas forcément à cause du variant. Ça peut être en raison des circonstances de l'absence justement de gestes barrières, d'un système sanitaire qui est en situation difficile. Il a quelques points de ce variant de ressemblance avec les variants que nous connaissons mieux, originaires d'Afrique du Sud ou du Brésil. Donc on peut s'attendre qu'il ait le comportement du même ordre, mais il est un tout petit peu tôt, trop tôt pour juger. La cinétique de sa progression en Inde montre qu'il n'est pas forcément extrêmement virulent en termes d'augmentation rapide de nombre de cas, peut-être moins par exemple que le variant britannique. Néanmoins, il faut être vigilant, le surveiller. Il n'y a pas de cas chez nous, en Hexagone, mais évidemment...
Pour le moment, puisque vous parlez de présence. Mais est-ce que selon vous, certains disent...
Certains disent
que c'est inéluctable, professeur Alain Fischer. C'est votre avis ? Sa présence en France ?
Probablement, oui. La question est de savoir si par rapport au variant prédominant actuel britannique qui est solidement installé, il peut avoir un impact, et un impact fonction de ses caractéristiques. Encore une fois, cela est suivi de près, sera étudié évidemment de façon très très soigneuse, aussi bien en France que dans tous les pays. Et les pays concernés en particulier. Ouais. Il y a cette vigilance, mais il n'y a pas de raison d'avoir une inquiétude supplémentaire, disons.
Bon, on vous entend ce matin, mais malgré tout, dans ce contexte-là, qu'attend le gouvernement ? Mais véritablement, on a besoin d'entendre vos raisons, vos explications. Qu'attend le ministre de la Santé pour élargir la vaccination, pour l'ouvrir sans critères d'âge ?
Alors d'abord, peut-être c'est bien de rappeler qu'aujourd'hui, plus de 20 millions de doses de vaccins ont été administrées à des Français. Plus de 14,3, 14,4 millions de personnes ont reçu une première. Donc ça fait plus de 20% de personnes de ce pays. Ce qui est bien, mais encore loin du compte, bien évidemment. Comme vous le savez, la règle qui a été mise en place et qui est tout à fait légitime, c'est de vacciner en priorité les personnes vulnérables. Par l'âge, qui est le critère essentiel, et par la maladie, qui est un second critère, qui est aussi important.
Et on ne le remet pas en cause.
Et il ne faut pas le remettre
mais
en
là,
cause.
Là, c'est
et
maintenant.
Il faut poursuivre, ce n'est pas fini. Il y a encore des personnes vulnérables par l'âge, tout simplement âgées de plus de 50 ans, parce que même si on a 55 ans ou 60 ans, eh bien, on n'est pas complètement à l'abri, malheureusement, d'une forme grave, d'ailleurs même avant 50 ans, mais c'est plus le cas au-delà de 50 ans. Il y a encore des personnes vulnérables, y compris des personnes vulnérables plus jeunes. La vaccination là, va être ouverte, par exemple, aux personnes obèses de moins de 50 ans, ce qui est une très bonne chose. Il y a encore d'autres personnes fragiles de moins de 50 ans pour lesquelles la vaccination n'est pas encore ouverte.
Mais,
vous voyez
professeur, donc, mais on pense à ces gens-là, mais pourquoi malgré tout ne pas fluidifier les choses pour être plus efficace, pour vacciner ceux qui le veulent ? Vous entendez quand même dans les centres de vaccination ceux qui vous disent « il y a des créneaux libres ». Pourquoi ne pas vacciner ces personnes plus jeunes aujourd'hui et exposées ?
Parce que, alors, sur la notion, il faut bien préciser ce que sont ces créneaux libres. Il n'y en a pas tant que ça. Et on est dans une phase, et ce qui est très bien, d'expansion du nombre de créneaux disponibles. Donc il y a des ajustements qui se font. Et il faut bien savoir qu'un nombre de doses de vaccins égal, par définition, si on ouvrait au premier venu, ça veut dire qu'une personne prioritaire, 60 ans ou malade, ne sera pas vaccinée. Enfin, ne sera pas vaccinée aujourd'hui, elle le sera dans un mois.
Attendez, ça veut dire que si on élargit, on le fait au détriment
forcément,
des autres ?
Forcément. Forcément. On a un nom. J'allais prendre l'image qui n'est pas très appropriée d'un gâteau, si vous donnez une part.
Allez-y, parce que plus c'est parlant pour nous. Là, oui. On veut comprendre pourquoi on ne le fait pas.
Si on donne une part du gâteau, je continue avec cette image, même si elle n'est pas tout à fait appropriée à quelqu'un, pour les autres, la part du gâteau restante diminue.
Mais on comprend bien, professeur, mais j'insiste de nouveau, ces personnes plus jeunes, puisque nous parlions de ce calendrier progressif de réouverture, elles vont être exposées. Là, vous me parlez de vulnérabilité, vous avez raison pour les personnes un peu plus âgées, mais les personnes plus jeunes exposées, est-ce que vous ne comprenez pas qu'il faut les vacciner aussi ?
Bien sûr qu'il faut vacciner tout le monde, c'est l'objectif.
Non mais bien sûr, mais
c'est
plus rapidement.
Une question... Dans un monde idéal, ce serait parfait de pouvoir faire ainsi, mais il faut faire des choix. On a une quantité de vaccins disponibles et la priorité doit aller aux personnes qui ont le plus besoin, celles qui ont le plus de risques d'être malades, d'être hospitalisées et de mourir. Et si on ne vaccine pas, il y en a encore des personnes âgées de 70 ans aujourd'hui parce qu'on laissait la place à quelqu'un de 30 ans en bonne santé, qui aussi aura besoin du vaccin, ça ne se discute pas, a fortiori si cette personne travaille dans une profession exposée. Mais néanmoins, la priorité est à la personne âgée de 70 ans.
Il y a à peu près 4 millions de personnes qui sont éligibles, professeur Alain Fischer, à la vaccination, qui ne sont pas venus recevoir leur dose. C'est cela qu'il faut attendre aujourd'hui. Il faut les attendre.
Il faut les attendre. Il faut aller les chercher. Il y a encore par exemple des personnes très âgées pour lesquelles c'est difficile de se déplacer ou plus difficile d'entrer en contact avec l'organisation de la vaccination. Donc il faut, comme on dit aujourd'hui, le terme est utilisé, on comprend bien son sens, aller vers ces personnes, par le téléphone, il y a une grande campagne de la Caisse nationale d'assurance maladie, par exemple, qui va dans ce sens. Il faut avoir une attitude proactive pour, encore une fois, aller au bout d'un processus qui est très engagé, mais pas tout à fait
et
terminé.
Et on vous comprend, mais dites-nous ce matin, professeur Alain Fischer, ça ne veut pas dire, si on n'élargit pas, que les vaccins sont gaspillés, parce que non. Ça, ce serait incompréhensible pour les Français.
Si on regarde les courbes de nombre de doses consommées, si je puis dire, ça veut dire administrées, on sait qu'il y a quelqu'un, il y a une personne qui a reçu un vaccin, puisqu'à chaque fois c'est enregistré dans un système informatique, on voit bien que les choses avancent comme il faut, qu'il n'y a pas de gâchis. Marginalement, ça existe, comme dans tout processus humain, mais très fondamentalement, les doses sont utilisées. C'est vrai qu'il peut rester de ci, de là, soit des créneaux non utilisés, soit des
vous
des
ne
doses.
Minimisez pas ces créneaux non utilisés.
Ça, ça existe, bon, ça existe, bien
dites,
sûr,
oui.
Non, mais bon, voilà, ça existe, et à ce moment, je pense que d'ailleurs les personnes responsables dans les centres de vaccination, les médecins, les pharmaciens, ils ont souvent des listes d'attente et des systèmes qui leur permettent d'aller chercher des personnes peut-être un peu plus jeunes, mais très bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais fondamentalement, et c'est ça qui compte, et on le voit en grand nombre, ça reste exact, il faut suivre les priorités et aller au bout du processus de vaccination des personnes vulnérables.
Pas de gâchis, dites-vous, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un gâchis sur la confiance par rapport au vaccin AstraZeneca. Est-ce que pour vous, professeur Alain Fischer, elle est rompue ? Je me souviens, nous étions ici tous les deux le 18 février dernier. Vous me disiez le vaccin AstraZeneca n'est pas un vaccin de seconde zone. Mais qu'a-t-on fait depuis pour rassurer et insuffler la confiance ?
Écoutez, d'abord, je confirme que ce n'est pas un vaccin de seconde zone. C'est un très bon vaccin qui est tout à fait efficace. Et donc, il faut l'utiliser autant que faire se peut. Beaucoup de mes collègues de professionnels de santé se sont engagés pour défendre et expliquer.
Mais qu'est-ce que c'est dur pour eux, professeur Fischer ? Ils n'y arrivent pas.
Parce qu'entre-temps, on a appris, malheureusement, mais c'est la vie scientifique telle qu'elle peut se passer au jour le jour, que ce vaccin, de façon très rare, mais réel, peut entraîner une complication, formation de caillots, qui fait, pour que les choses se passent dans de bonnes conditions, que ce vaccin n'est actuellement pas utilisé chez les personnes relativement jeunes, moins de 55 ans, mais par contre garde tout son intérêt, parce qu'il est efficace, et qu'il est sûr, en termes d'analyse bénéfice-risque, il n'y a pas de discussion possible, chez les personnes âgées de plus de 55 ans. Donc ce message, je l'indique à la minute, il est répété tous les jours par des milliers, par des dizaines de milliers de médecins, d'infirmiers, de pharmaciens, de personnes, pour faire en sorte de convaincre. C'est dur.
Eux font le job. Moi, je parlais de la communication gouvernementale.
Oui, mais la communication. Alors, mais la commission gouvernementale aussi va dans ce sens. Mais je pense que le message, il est plus fort quand il est porté par les professionnels de santé que par les politiques. C'est absolument évident dans ces questions de confiance sur des points délicats et qui nécessitent explication. C'est pas qu'un message qu'on passe en 30 secondes. Il est légitime que des gens posent des questions, qu'on leur explique le bien fondé. Et si quelqu'un a 60 ans, recevoir ce vaccin, c'est absolument justifié et il faut le faire. D'ailleurs, ça se passe, hein, il faut pas... Ça pourrait être un peu mieux, indiscutable.
Vous voyez les trains qui arrivent à l'heure, on se permet pas de voir aussi ce qu'il y en a. Et il y en a beaucoup sur ce vaccin-là.
Mais il y a quand même aussi beaucoup de trains qui arrivent à l'heure, parce que si on regarde le nombre de personnes vaccinées par l'AstraZeneca chaque jour, ça augmente. Tous les jours, il y a des gens vaccinés. Il y a aussi des difficultés qui font, malheureusement, la société AstraZeneca livre ce vaccin de façon irrégulière.
Ce qui n'aide pas. Par exemple, avec le vaccin Janssen, une seule dose du laboratoire Johnson & Johnson. Là encore, c'est à peu près le même vaccin à vecteur viral.
C'est la même famille de vaccins, c'est-à-dire fondée sur les adénovirus. Il y a eu tout petit signal d'alerte du même ordre aux États-Unis, donc situation de prudence, on l'utilise chez les plus de 55 ans, mais voilà, c'est justifié, il faut le faire, il faut y aller, mais à chaque fois, il faut expliquer, et c'est normal qu'il faille prendre du temps pour expliquer.
Il faudra vacciner les enfants, professeur Alain Fischer ?
Alors, c'est un sujet à l'étude, il faut expliquer le...
Donc l'hypothèse, comme on dit, est sur la table ?
Sur la table, oui. Ça, c'est sûr qu'elle est sur la table.
Après, pas évident comme sujet, sensible.
Non, c'est un sujet délicat, mais il faut expliquer le pourquoi. L'objectif final de toute cette campagne de vaccination, associée aux mesures, je le répète néanmoins, de distance physique, de barrières qui sont encore indispensables pour un moment, c'est très important de le rappeler, c'est la conjonction des deux qui permettra de sortir de cette épidémie. Et pour sortir de cette épidémie, il faut atteindre ce qu'on appelle l'immunité de groupe. L'immunité de groupe, ça veut dire qu'au-delà d'un certain seuil, le virus, si je puis dire, ou les personnes, pour être plus précis, infectées par le virus ne rencontrent plus statistiquement de personnes
infectées. Mais notre inquiétude, c'est pas si on va l'atteindre, c'est quand, professeur Alain Fischer,
justement, j'essaie de vous expliquer. Pour cela, donc, il faut avoir vacciné un grand nombre de personnes. Et si on fait des modélisations...
Près de 80% de la population ?
Probablement, il faudrait que 75% de toute la population, enfants compris, ou alors si vous enlevez les enfants, on monte à genre de 85% peut-être de la population adulte. Et est-ce qu'on peut y arriver à 85% par exemple de vaccination ou de personnes protégées par l'infection ? Je ne suis pas sûr. On verra cet été ce qu'il en est. Oui. Mais si ce n'est pas le cas, la discussion sur les enfants devient plus prégnante. D'autant qu'il y a quand même un bénéfice pour les enfants, il ne faut pas oublier. Heureusement, c'est une maladie tout à fait bénigne chez les enfants, mais quand même, il y a eu en un an plusieurs centaines de cas d'une complication inflammatoire
sur la table,
qui n'est pas négligeable. Donc il y aurait un bénéfice direct pour les enfants, les protéger. Il y a des essais cliniques en cours, c'est un préalable absolu. Évidemment, concernant la sécurité, c'est évident, je le répète, mais c'est une évidence. Et l'efficacité des vaccins chez l'enfant, il y a déjà une étude avec le vaccin ARN de Pfizer chez les 12-15 ans qui a montré que le vaccin était à la fois efficace et sûr. D'autres études sont en cours pour des enfants plus jeunes, et quand on aura ces informations, quand on saura où on en est du taux de couverture vaccinale, enfin combien de Français sont vaccinés cet été, alors on pourra voir ce qu'il en est.
Et peut-être qu'à ce moment-là aussi, pour conclure, professeur Alain Fischer, on pourra tomber le masque en extérieur.
Mais c'est exactement l'objectif.
On espère que ce n'est pas la cinglingling quand même.
Non, tomber le masque à l'extérieur, ça viendra probablement un peu plus vite. C'est ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Mais tomber le masque en intérieur et supprimer toutes les mesures barrières, ça sera à ce moment-là.
Merci, professeur Alain Fischer. Merci aussi pour la pédagogie, c'est important. Bonne Merci journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci Sonia Mabrouk. 8h29 à suivre l'info avec Marion Calais sur Europe 1 et la météo de Laurent Cabrol. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Marion Calais.
Pas encore de date précise, mais au moins une perspective, celle d'un début de déconfinement à partir de la mi-mai. Emmanuel Macron l'a redit hier soir face à une dizaine de maires réunis en visioconférence. La date du 12 mai évoquée pour de premières réouvertures. Les restaurateurs dès à présent donc se préparent pour une reprise des services en extérieur avec l'aménagement de terrasses, même si à Paris, les règles pourraient changer. Reportage de Pierre Herbulot pour Europe 1.
Nathan Hello ne scie pas de planches, il ne les visse pas sur des places de parking, non. Le chef du restaurant du Pain est en train de créer son futur chiffre d'affaires.
Dans l'idée, on est à 14 tables, 14 tables de 2. Ce qui nous permet en fait tout simplement de retrouver la place perdue à l'intérieur, de la retrouver sur l'extérieur.
2000 euros de travaux pour agrandir et embellir sa terrasse en palette de l'été dernier, avant même de connaître les règles décidées par la mairie.
Si on n'agit pas tout de suite, on risque de perdre du temps et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est surtout être présent dès qu'on aura le droit de rouvrir. S'il y a vraiment un moment où il ne faut pas nous tirer une balle dans le pied, c'est maintenant.
Ah mais on peut pas tout avoir. Enfin, je veux dire, il faut que ce soit un équilibre aussi à Paris.
Olivia Polski est chargée du commerce à la ville, qui définit en ce moment le cahier des charges de ces terrasses. Dimension, horaire d'ouverture et prix. La gratuité, c'est terminé.
C'est l'entretien de l'espace public, hein. Je veux dire, les équipes de propreté, les équipes de sécurité. Il y a aussi des salaires à payer. C'est un usage collectif de l'espace public.
Des terrasses payantes, c'est aussi des terrasses pérennes. Et ça inquiète Gilles Pourbet, le président de l'association Vivre Paris. Trop de nuisances sonores.
L'été dernier a été une véritable catastrophe. Attention au pétage de plomb.
Aujourd'hui éphémère, ces extensions de bars et de restaurants pourraient devenir semi-permanentes. La mairie songe à les autoriser 6 mois de l'année.
Le déconfinement au menu d'un nouveau conseil de défense sanitaire, donc ce matin, l'exécutif qui doit transmettre aujourd'hui à Bruxelles le détail de son plan de relance, 40 milliards d'euros de subventions européennes à la clé, des versements que Paris espère voir arriver un peu plus vite que prévu, Carole Ferry.
Bruxelles prévoit les premiers versements au mois de septembre, Bruno Le Maire veut qu'ils arrivent dès le mois de juillet. Pourra-t-il expliquer que ce plan de relance devienne une réalité concrète pour les citoyens européens ? Mais ce que craint surtout le ministre de l'économie, c'est que les lenteurs technocratiques de l'Europe ne freinent la relance européenne, alors que la croissance chinoise est repartie et que les États-Unis sont en plein essor. Sauf que pour Bruxelles, il n'est pas question de signer un chèque en blanc. C'est tout l'objet du dossier qui est remis aujourd'hui à la Commission européenne. La France doit prouver deux choses. Un, qu'elle utilisera bien les subventions européennes pour relancer l'économie avec des mesures vertes. Deux, qu'elle a prévu les mesures qui permettront, une fois la crise passée, d'assainir ses finances publiques. Tout est détaillé sur une centaine de pages déterminantes pour obtenir le feu vert de Bruxelles.
Carole Ferry. Ce sont des litiges dont le médiateur de l'énergie ne veut plus entendre parler. Et pour la première fois, il saisit le procureur de la République. C'est une information Europe 1. Au cœur de cette affaire, les pratiques du fournisseur de gaz et d'électricité, Eni. Précision avec Maud Descamps pour Europe 1.
C'est le litige de trop qui a déclenché la colère du médiateur de l'énergie. Blandine, 98 ans, s'est vue réclamer la somme de 1314 euros pour facture impayée par le fournisseur Eni. Mais voilà, cette dame n'habite plus dans sa maison et surtout n'a jamais signé de contrat avec ce fournisseur, comme l'explique son neveu qui a contacté Eni pour tenter de résoudre le litige.
On me dit, mais oui, il y a eu un contrat de signé. J'ai dit, mais par qui ? À quelle date ? Alors on me donne une date, on me communique une adresse mail, un numéro de portable inconnu. Et là, il y a eu plusieurs échanges de mails avec l'ENI. Voilà, c'est l'affaire a débuté comme ça.
Un cas qui n'est pas isolé, rien qu'en 2020, 829 litiges avec le fournisseur ENI ont été rapportés au médiateur de l'énergie, Olivier Chaland-Belval. Joint par Europe 1, il dénonce le double discours d'ENI qui assure vouloir améliorer ses pratiques mais continue à être régulièrement cité dans des affaires de démarchage abusif. Le fournisseur, lui, nous a indiqué avoir porté plainte contre X, précisant que le commercial à l'origine du contrat frauduleux est un prestataire extérieur.
Information Europe 1, signé Maud Descamps. Ils avaient été condamnés en Italie pour des actes de terrorisme commis dans les années 70-80. 7 anciens membres des Brigades Rouges ont été arrêtés en France. 3 autres sont recherchés, annonce ce matin de l'Élysée. Après une finale l'an dernier, après avoir fait tomber le Barça et Munich cette saison, le PSG face à Manchester City ce soir en Ligue des Champions, demi-finale aller que l'on suivra en direct et en intégralité sur Europe 1 à partir de 21h, émission spéciale même dès 20h. Et puis hier, dans l'autre demi-finale, le Real Madrid et Chelsea ont fait match nul un partout. Les Madrilènes revenus au score à la 28e minute grâce à Karim Benzema.
Et un missile, Marco Benzema, Real Madrid 1, Chelsea 1.
Un missile, comme le dit le commentateur de la Cadena Ser. Corner, puis plusieurs passes jusqu'à la tête et une reprise de volée de l'attaquant français.
Très beau but.
71e but de Karim Benzema en Ligue des Champions, ce qui en fait le 4e meilleur buteur de la compétition.
Et donc soirée spéciale ce soir, PSG Manchester City, ce sera sur Europe 1 en direct en intégralité, soirée spéciale dès 20h. Merci Marion Calais, 8h36. Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et depuis ce matin, je vous parle beaucoup de la Lune, puisque c'est quand même la Lune qui est d'actualité. Pourquoi maintenant en météo devrais-je vous en parler ? Parce qu'à l'époque, les travailleurs de la Terre accordaient une importance considérable au cycle de la Lune. Et justement, nous venons donc d'avoir la pleine Lune, et la nouvelle Lune, c'est le 12 mai. Et en général, on pense que le temps change à partir de la nouvelle Lune. Et comme le temps va rester quand même assez maussade, assez incertain jusqu'au 12 mai, pratiquement, on peut dire que la nouvelle Lune va engendrer peut-être l'arrivée réelle de la chaleur. Le 12 mai, c'est la fin du déconfinement, enfin presque. Et c'est aussi le début des saintes glaces. Vous voyez qu'il va se passer beaucoup de choses le 12 mai. Faites une croix sur votre carte, votre calendrier. Aujourd'hui, ce sera de la pluie pour beaucoup d'entre nous, tous ceux qui sont au sud et qui s'en réjouissent depuis 2 jours. Et puis, les pluies vont gagner sous forme d'averses, l'Aquitaine, le Poitou, le Cher, la région parisienne ce soir, le littoral de la Manche, la Lorraine. Alors qu'ailleurs, nous aurons un voile, notamment sur le Nord et les Ardennes, et même des éclaircies sur le Bordelais. Les températures entre 16 et 21 degrés.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. 8h37 sur Europe 1 dans quelques minutes. Revue de presse, Nicolas Canteloup, notre planète, Fanny Agostini, mais d'abord notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed.
Je vais vous parler du lien entre l'alimentation et certaines maladies inflammatoires et vous allez voir qu'il n'existe aucun régime miracle, mais que certains aliments sont à privilégier et d'autres à éviter.
A tout de suite, il est 8h38.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h39 sur Europe 1. On retrouve le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous nous parlez ce matin, Jimmy, du lien entre les maladies inflammatoires et l'alimentation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord ce que c'est qu'une maladie inflammatoire ?
Eh bien, ce sont toutes les pathologies où il va y avoir de l'inflammation qui va se retourner contre un de vos organes. Ça peut être la peau, votre tube digestif ou même vos articulations. C'est par exemple la spondylarthrite ankylosante, le psoriasis ou encore la maladie de Crohn. Alors ces maladies, elles sont extrêmement fréquentes car elles concernent un peu plus de 6 millions de Français. Et même si vous n'êtes pas concerné directement par ces maladies, sachez que l'inflammation reste néfaste pour tout le monde, car cela va en favoriser d'autres, comme l'obésité ou même le diabète de type 2.
On entend régulièrement que certains patients ont pu guérir de ces maladies avec des régimes particuliers. Est-ce que c'est prouvé scientifiquement ?
Alors, il existe à l'heure actuelle aucun régime anti-inflammatoire qui a permis de traiter une de ces maladies. Alors, dans un premier temps, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de ne pas vous lancer dans des régimes restrictifs comme des régimes sans gluten ou des régimes cétogènes, c'est-à-dire avec zéro sucre, car les médecins rapportent de nombreuses carences avec ces régimes. D'ailleurs, certaines études ont même évalué l'efficacité de ce qu'on appelle des super aliments comme le curcuma dans la maladie de Crohn et malheureusement, aucune preuve d'une réelle efficacité. Malgré tout, vous allez avoir certains patients, il faut les croire, qui se disent améliorés par ces régimes, mais en réalité, ce dont on s'aperçoit, c'est que les symptômes vont diminuer en intensité, c'est-à-dire que vous allez avoir moins mal au ventre, mais lorsqu'on vous fait des prises de sang à la recherche de l'inflammation, eh bien on se rend compte que les marqueurs de l'inflammation restent malheureusement très élevés. Ça veut dire que ce n'est qu'un semblant de guérison.
Pourtant, il existe certains aliments qui peuvent provoquer de l'inflammation, non ?
Oui, tout à fait, ce sont les aliments en particulier sucrés. On a d'ailleurs expérimenté ça chez des souris à qui on a donné une toute petite dose de sucre pendant quelques semaines, et puis on a examiné leur tube digestif au microscope. Au bout de 8 semaines seulement, on a pu constater de l'inflammation sur leur paroi digestive. Ça veut dire qu'il faut être prudent, en particulier avec les sucres industriels contenus dans les aliments ultra transformés. Il y a d'ailleurs eu une augmentation de ces maladies avec le début de l'industrialisation et l'avènement des fast-foods. Et on sait aussi, par exemple, que la viande rouge peut entraîner de l'inflammation au niveau du tube digestif, et donc potentiellement aggraver des symptômes en cas de maladie de Crohn. Et puis, il y a ce qu'on appelle les acides gras trans qui vont être utilisés dans l'industrie agroalimentaire comme stabilisants et conservateurs. Ils vont rendre les aliments plus stables ou fermes et vous les trouvez dans les produits alimentaires transformés comme les viennoiseries et les pizzas. Et là encore, source d'inflammation.
Et que faire alors en cas de crise douloureuse ?
Alors, dans un premier temps, consultez évidemment, mais misez sur un régime sans résidus pendant quelques jours. Ça va favoriser la digestion et laisser votre côlon au repos. Privilégiez les viandes blanches, les poissons maigres, les pâtes et la semoule. Évitez la consommation de fruits et de légumes crus. Et puis, une fois la crise passée, il faut retrouver un mode de vie normal. Mangez des fibres, 5 fruits et légumes. Augmentez votre ration de légumineuses, car l'équilibre alimentaire et la diversité sont les premiers vecteurs d'une bonne santé.
Merci, c'est complet. Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1 qu'on retrouve à 15h dans son rendez-vous avec Mélanie Gomez.
Et on continue notre conversation autour des maladies inflammatoires et l'alimentation avec le professeur Biroulet. Il est chef de service de gastro-entérologie au CHU de Nancy.
Merci Jimmy, à tout à l'heure, 8h42. Notre planète, Fanny Agostini avec nous. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et vous nous parlez ce matin, Fanny, d'un collectif de start-up françaises qui signe une tribune et qui décide de volontairement se contraindre à baisser leurs émissions de CO2.
C'est assez inédit. 106 startups françaises se déclarent aujourd'hui prêtes à s'auto-contraindre et dénoncent par la même occasion la législation qui permet encore à des jeunes entreprises de chercher à maximiser leur croissance sans avoir en aucun cas à se soucier de leur empreinte carbone. Ces 106 entreprises joignent aussi l'acte à la parole puisqu'elles signent par cette tribune l'engagement de réaliser leur bilan carbone, c'est-à-dire de quantifier précisément leurs émissions. Les signataires demandent que leurs engagements volontaires soient transformés en exigence légale pour s'assurer que les nouvelles générations d'entreprises adoptent de meilleures habitudes.
Que dit la législation en place justement sur le bilan carbone des entreprises ?
Eh bien, figurez-vous que seules les entreprises qui ont plus de 500 salariés sont réellement obligées d'évaluer leur activité. Et cela ne représente que 5% des entreprises françaises. C'est peu en nombre, mais aussi en rigueur. Car le système actuel de comptabilité permet de faire l'impasse sur les émissions liées au transport des marchandises, aux déplacements professionnels ou encore sur la gestion des déchets. Les signataires de cette tribune, baptisée Climate Act, rappellent aussi qu'en plus d'être un outil indispensable à la transition écologique, le bilan carbone est plus utile lorsqu'il est réalisé tôt. C'est-à-dire qu'une fois que les pratiques polluantes d'une entreprise sont installées, il est à la fois coûteux et compliqué pour elle de faire machine arrière et de se restructurer.
Une occasion pour les signataires de lancer un défi à toutes les entreprises.
C'est ça, pour que désormais la transparence sur les émissions des entreprises soit totale. Puisqu'aujourd'hui, seuls 39% des entreprises françaises soumettent un bilan carbone, contre 70% aux États-Unis ou encore 80% en Afrique du Sud. On est donc en France clairement à la traîne. Et surtout, le cadre légal français est très particulier sur ce sujet. Alors que la plupart des pays ont choisi d'imposer des bilans carbone aux entreprises selon des seuils de pollution ou des secteurs d'activité, la France est la seule membre du G20, avec l'Angleterre, à avoir opté pour une approche qui ne concerne que les entreprises d'une certaine taille. Il est donc extrêmement positif de voir aujourd'hui que les investisseurs les plus verts commencent à exiger une transparence accrue des entreprises sur leur impact écologique. Une rigueur qu'il serait temps d'adopter, car les politiques d'incitation manquent systématiquement leur cible.
Merci Fanny Agostini, notre planète sur Europe 1, tous les matins, 8h45. Très bon réveil à toutes et à tous. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous le savez, dans un instant, Nicolas Cantin.
Europe Matin. Le 7-9. Mathieu Béliard.
8h47, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Mathieu, c'est à vous pour le rappel des infos du jour.
Et oui, bonjour Julie. Pardon, oui, excusez-moi, bienvenue sur Europe 1 si vous venez de nous rejoindre. L'info du jour, allez, on y va. C'est le PSG qui affronte ce soir Manchester City.
Oui.
N'oubliez pas d'écouter le match sur Europe 1, car on fait une soirée spéciale. Oui, c'est vrai que c'est, non, mais c'est surfait de regarder les images des buts à la télé. C'est tellement mieux le foot à la radio.
Il ouais, faut avoir tous les abonnements aussi. Hein.
Ah. Celle-là, elle n'est pas facile à vendre.
Non, bon, pas trop là. Non, oui.
PSG Manchester City, deux clubs qui se sont retirés du projet élitiste de Super League. Nous en avions parlé dans nos éditions précédentes. C'est vrai que c'est bien la Ligue des Champions. C'est pas le football dominé par l'argent, la Ligue des Champions. C'est le vrai foot entre le petit PSG du Qatar et le modeste Manchester City des Émirats Arabes Unis. Et pas facile à vendre non plus,
ah,
celle-là.
Non, non plus.
Allez, l'autre info. Oui, mais je suis un bon vendeur. Je suis un bon vendeur de bagnole, j'ai un garage. Allez, l'autre info. C'est cette tribune des 20 généraux à la retraite dans Valeurs Actuelles qui appellerait à l'insurrection. Des vieux généraux grabataires, Jean-Marie Bigard, Francis Lalanne, Juliette Binoche. Voilà donc les nouveaux Danton et Robespierre. Ah ben, elle va avoir de la gueule, la révolution, ça promet. Allez, à vous, Julie.
Merci, Mathieu. Allez, on enchaîne. Le constructeur Renault bride ses moteurs. On est en ligne avec l'ex-PDG de Renault, Carlos Ghosn. Bonjour à vous.
Oui, bonjour madame.
Elle est bien la voix. Allez, vous en pensez quoi de ces voitures bridées à 180 km/h?
C'est totalement idiot et ridicule. Inutile, surtout. Aucune Renault, vous le savez, n'a jamais atteint les 180 km/h.
Ouh, mais vous n'aimez plus Renault, Carlos Ghosn, hein?
Non, bien sûr, j'aimais Renault tant que j'étais payé par Renault. Renault, maintenant je suis lucide, je préfère Tesla. Tesla fait des voitures modernes, magnifiques, silencieuses, et puis des fusées aussi. Et honnêtement, vous monteriez dans une fusée, monsieur Béliard, Renault, dans une fusée Renault, propulsée par un moteur de Twingo? Non, vous ne le feriez pas, madame Julie, monsieur Grabrol, moi non plus.
Donc je reviens à mon sujet, vous êtes contre la limitation à 180?
Non, j'ai toujours tout débridé chez Renault. J'ai toujours tout débridé chez Renault, notez-le, à commencer par ma rémunération. Je suis même de l'avis contraire. Je bloquerai le compteur des Renault à 350 km/h. Comme les Renault sont très moches, ainsi on ne les verrait pas passer, on les verrait passer en tout cas moins longtemps. Donc je dis vive Tesla, vive Fiat, vive Honda. Fallait pas m'emmerder, Renault.
Ouais, bah dis donc. On va voir ce qu'en pense la maire de Paris de ces moteurs bridés à 180 km/h. Anne Hidalgo, bonjour.
Oui, bonjour. Écoutez, je salue le geste écologique de Renault, même s'il y a une forme d'hypocrisie, puisque rouler à 180 km/h est interdit partout en France, vous le savez bien, qu'il y avait un garage, monsieur Meillard.
Ça recommence.
Non, s'ils voulaient vraiment respecter la réalité, ils brideraient leur véhicule à 5 km/h.
Ah, bon, écoutez, tiens, puisque vous êtes là, un mot de cette info. Votre fils Arthur s'est lancé.
Mais 5 km/h, vous ne rebondissez pas sur 5 km/h, ça vous paraît cohérent?
Ah, oui, c'est vrai.
Oui, vous avez sauté une ligne.
5 km/h.
Heureusement, ça y est, je suis vigilante. Alors, refaites-le.
5 km/h.
Oui, 5 km/h. Oh, qu'est-ce que nous jouons bien tous les deux au ping-pong, madame Julie. 5 km/h. Oui, en effet. En effet, c'est la vitesse maximum d'une voiture dans Paris. Pour être honnête, avec les embouteillages, si je veux être vraiment honnête, on est plus autour des 2 à l'heure. Mais c'est vrai que parfois, quand on a de la chance, n'est-ce pas, monsieur Cabrol, qu'un bus libère une voie, on peut faire une pointe à 5 km.
Bon, on essaiera. Allez, un petit mot de cette info. Votre fils Arthur s'est lancé le défi de parcourir la Seine à la nage sur 780 km. Le problème, c'est que c'est interdit de nager dans Paris et non, qu'il a eu l'autorisation. La presse parle bien sûr de passe-droit. Tiens.
De passe-droit. Non, mais parce que vous croyez vraiment, madame Julie, que c'est un privilège de nager dans la Seine à Paris? Vous croyez que ça amuse une mère de voir son fils nager au milieu des rats, des vélibes rouillés et des maladies nosocomiales par milliers?
Ah, vous l'avouez, hein, c'est si sale que ça, Paris, hein?
Hein, c'est si sale. Quoi? Oui, non, pas du tout, c'est très propre. Bon, bonne baignade, fiston, et rest in peace, fiston.
Merci, Anne Hidalgo. Allez, on va maintenant parler de ces nouveaux OGM qui inquiètent beaucoup. Hein. Arnaud Montebourg, bonjour.
Ah, salut la Julie, salut le Béliard, salut le Cabrol, salut la compagnie.
Alors, Greenpeace dénonce ces nouveaux OGM, du blé sans gluten, des vaches sans cornes. Eh bien, ça promet.
Ouais, du blé sans gluten, des vaches sans cornes. Il n'y aurait pas aussi des socialistes sans branler, par hasard, hein, dans leur truc génétiquement modifié? Non, parce que j'ai vu, ma Julie,
quoi?
J'ai vu mes derniers sondages, j'y vais tout droit à la branler.
Non, mais c'est effrayant. Des vaches sans cornes, vous êtes un producteur bio, vous, hein, ça doit vous énerver, tout ça.
Mais non, mais je m'en fous. Mais je m'en tamponne le coquillard. Je viens de te dire que j'ai vu mes derniers sondages. Les gens, ils m'aiment pas. Hein, eh bien, je les aime pas non plus. Voilà, démerdez-vous. Ils peuvent faire pousser des vaches avec des hamburgers à la place des rouignoles ou des chèvres qui pissent du miel. Je m'en fous. Et bon cancer à tous, bande de cons.
Eh ben, dis donc. Revenez quand vous voulez, Arnaud Montebourg. Hein. Jean Lassalle, une réaction à ces nouveaux OGM. Le blé sans gluten, les vaches sans cornes, Jean Lassalle.
Est-ce que ce serait. Bonjour à toute votre équipe. Bonjour à tous. Votre coopérative, est-ce que ce serait possible, pour le bien des agriculteurs, bien sûr, de faire des chèvres avec des jolies poitrines? Un peu comme Kim Kardashian, mais en chèvre.
C'est ça, d'accord. Bah, écoutez, on va faire passer la demande. Hein. Merci,
c'est une demande légitime, je suis sûr qu'il se ravirait certains de mes camarades.
Parfait.
Je vous en prie. Non, mais c'est, vous me prenez non, pour quelqu'un qui pose des questions incongrues. Je trouve ça totalement désagréable.
Non, mais c'est bien. Vous êtes venu
juste
pour
une pétition.
Juste pour une petite intervention sur les chèvres. Allez,
non, mais ne me résumez pas une petite intervention. C'est un moment important de cette grenouille.
Allez.
Et donc, je tiens à ce que ma demande soit prise
très
en
bien.
Compte.
On fera passer, je vous ai dit, hein, la
d'accord,
demande.
Je
on parle de plus
j'ai
en plus.
J'ai une façon de me couper le sifflet,
non,
si
non,
je
non.
peux mettre
on vous bride ici. Aussi, ben oui,
si,
bien sûr.
Mais oui, me brider, un peu comme les Renault.
Voilà.
Et la boucle est bouclée. Allez, enchaînez. Je sens que vous avez d'autres invités qui doivent prendre
ben
la
oui.
parole derrière et je sens qu'ils sont prioritaires par rapport
et
à
ben
un
voilà.
homme du terroir,
mais...
un homme de la terre.
Oui,
et ça
bon.
Vous dérange, vous, les Parisiens, les citadins, les gens qui n'acceptent pas, qui ne sont pas ouverts d'esprit.
Bon, allez, on parle de plus en plus de déconfinement, mais les chiffres en réanimation ne sont pas bons. Bonjour Jean Castex.
Oui, bonjour.
Hier, le chiffre de patients en réa était de 6001 personnes. C'est le pire chiffre depuis le 16 avril 2020. C'est désespérant un peu, hein, Jean Castex.
C'est désespérant,
ben oui.
c'est désespérant. Vous êtes désespérants, les Français. Mais c'est vous qui êtes en réanimation, pas moi. Mais à chaque fois qu'on fait appel à l'intelligence collective, ça coince. Je le dis, il faut vous remettre en question aussi. L'intelligence collective, ça marche en Israël, ça marche en Angleterre, ça marche en Italie qui rouvre, vous l'avez vu. Il n'y a que chez nous que ça coince. Déjà qu'on n'est pas bon, nous, aux manœuvres, déjà. Mais si en plus, vous, les Français, vous êtes mauvais, on ne va pas y arriver. Je vous le dis tout de suite,
oui,
on ne va
oui,
pas y arriver.
Calmez-vous. De nombreux épidémiologistes et de nombreux médecins affirment que le masque en plein air ne sert à rien, finalement.
À rien.
Bah oui.
Mais bon, on s'est habitué à le mettre, donc on le garde. Je le dis à nos compatriotes, on le garde. Et puis surtout, pensez à tous ces Français qui ont pris 135 euros d'amende parce qu'ils ne portaient pas le masque dehors.
Eh bien tiens, bah oui.
Eh bien oui, ceux-là vont gueuler, forcément, si on leur dit qu'on les a amendés, qu'on leur a mis l'amende pour rien.
Bah tiens.
C'est normal. Donc, on va, si vous permettez, chère Julie, cher
oui, ben il y a du monde autour de la table.
Va,
allez, c'est
oui,
bon.
Oui, il y a aussi d'autres. Oui, on va attendre. Écoutez, ne me coupez pas. J'ai l'impression que vous voulez couper la parole à tous les gens du terroir.
Mais non.
Je ne vous le fais pas dire, M. Castex. J'ai ressenti la même chose. Quelle virtuose des voix. Alors, oui, donc, est-ce que je peux reprendre la parole?
Oui, allez-y,
donc,
M. le Premier ministre.
Oui, donc, on va attendre, si vous le permettez, un peu pour l'annoncer aux Français. Hein, on leur dira vers 2023, quand on sera reparti pour un deuxième quinquennat.
Eh bien, faites ça, oui. Allez, à bientôt. Hier, le Real de Madrid de Benzema affrontait l'équipe de Chelsea, de Giroud, Zinedine Zidane, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, votre chouchou Karim a encore été très performant, il a marqué.
Ouais.
Hein. C'est quoi votre secret, dites-nous.
Ah, le secret de la performance, de Karim performant, mais c'est, je crois que c'est un travail collectif. C'est, bon, il y a un très, très bon boulot du préparateur physique, très bon travail aussi, je tiens à souligner, du diététicien. Bon travail, je crois aussi de moi aussi l'entraîneur. Mais surtout, je tiens à remercier Didier Deschamps.
Ah bon, Didier Deschamps.
Bah oui, c'est grâce à Didier. Ça fait 6 ans que Karim, il se blesse pas en équipe de France. Il se fatigue pas non plus en équipe de France. Non. Merci Didier de garder Karim en forme pour le Real en préservant son mi-temps. Quoi. C'est hein, Karim, t'es bien avec nous en Espagne.
Oh, Deschamps, connard!
Oula!
Et voilà, je crois que là, c'est reparti pour 4 ans sans les Bleus. Ça fait du bien.
Merci, Sylvain. Zinedine.
Merci Nicolas Canteloup et Julie. Quel but de Benzema hier soir et quel match ce soir PSG Manchester City à suivre sur Europe 1. Bien sûr, 8h57, Philippe Vandel est avec nous. Culture Média va démarrer. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu, bonjour Julie. Aujourd'hui, on reçoit une icône de la télévision française, Michel Drucker. Il a fait son grand retour à la télé il y a quelques semaines après des mois de convalescence. Il raconte comment il a frôlé la mort et remonté la pente dans Ça ira mieux demain, son récit autobiographique qui sera ici. Au sommaire également, notre info média du jour va s'intéresser à Plus belle la vie, qui a choisi de traiter un sujet tabou parmi les tabous dans l'épisode de ce soir, le viol masculin. Comment aborder un sujet aussi fort dans une série familiale? On en parle avec la productrice Géraldine Gendre et le comédien qui joue, qui incarne la victime, Jérôme Bertin. Et puis le patron de l'INA, Laurent Vallée, qui fait un bilan de la première année de Madeleine, leur plateforme de streaming qui revendique un catalogue unique. Et il parlera aussi de Classe Alpha, nouveau cursus d'insertion professionnelle pour les gens sans diplôme.
Philippe Vandel, Culture Média, c'est de 9h à 11h et c'est sur Europe 1, bien sûr. Je vous souhaite une très belle journée, un bon match ce soir à l'écoute d'Europe 1, bien sûr. Moi, je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.